Une vie, une œuvre. Bonjour et merci de nous retrouver pour le portrait de cet après-midi, proposé par Julien Thève et réalisé par Laurent Polleret, consacré à Nina Berberova. Cette femme de lettres et poétesse russe-américaine est née le 8 août 1901 à Saint-Pétersbourg et nous quitte le 27 septembre 1993, peu de temps après son 92e anniversaire à Philadelphie. Nina Berberova, c'est le témoin d'un siècle. Dans sa jeunesse, elle a vu la chute du tsar et la révolution d'octobre, puis elle a connu l'exil. En France, où elle a passé 25 ans, elle a vécu les années folles, la guerre et l'occupation. Enfin, émigrée aux États-Unis, elle a découvert le rêve américain et la guerre froide. Après une vie tumultueuse, alors qu'elle a plus de 80 ans, son œuvre accède soudain à une reconnaissance qui, bien que tardive, sera néanmoins mondiale. Parmi ses écrits les plus célèbres, on peut citer son autobiographie, « C'est moi qui souligne », et « L'accompagnatrice », qui donnera lieu au film de Claude Miller du même nom.
Революция освободила меня, изгнание закалило, война протолкнула в иное измерение. Я росла в России в те годы, когда сомнений в том, что старый мир так или иначе будет разрушен, не было, и никто всерьез не держался за старые принципы. Во всяком случае, в той среде, в которой я росла. В России 1912-16...
La révolution m'a libérée, l'exil m'a trompée. La guerre m'a projeté dans un autre monde. J'ai grandi en Russie à une époque où l'on savait que le vieux monde allait de toute façon à sa perte. Personne ne défendait sérieusement les anciens principes, du moins pas dans mon milieu. Entre 1912 et 1916, tout croulait, s'effilochait sous nos yeux comme un vieil habit usé. La contestation était l'air que nous respirions. Elle a nourri mes premières vraies émotions. Beaucoup plus tard seulement, à l'âge de 25 ans environ, j'ai su que j'appartenais de par ma naissance à la bourgeoisie. Je ne me sens absolument pas liée à elle, notamment parce que j'ai passé ma vie entière parmi des exilés, déclassés, comme les héros de mes romans et de mes nouvelles.
Je suis un fleuve, Nina Berberova. Un documentaire de Julien Thève réalisé par Laurent Polleret.
Ida Juncker, vous nous avez emmené au 10 bis rue des Quatre Cheminées à Boulogne-Billancourt, devant l'immeuble où a vécu Nina Berberova avec Odasevitch. L'immeuble est toujours là, c'est vraiment ici même que Nina, pendant plusieurs années, rentrait tard le soir de ses pérégrinations parisiennes, où elle vivait maritalement avec Odasevitch.
Oui, c'était ici. Malheureusement, il n'y a pas de plaque sur cet immeuble, mais cette adresse est évoquée plusieurs fois dans les documents. Donc, c'était vraiment ici. Pour Nina, c'était jusqu'en 1932 et Kodasevich, il est resté à Billancourt après son départ.
Kodasevich et Nina s'étaient rencontrés en Russie en 1917.
Un peu plus tard, 1922. Ils sont partis très rapidement, ils ont quitté la Russie très rapidement.
Ils sont partis en 1922. Elle dit que lui, c'était pour raison de santé et elle, c'était pour continuer ses études à l'étranger. Ils étaient obligés de fournir des explications et de motiver leur départ, sinon ils n'auraient jamais pu quitter l'Union soviétique.
Oui, à l'époque, c'était, il fallait fournir des certificats et notamment Nina Berberova est partie en tant que secrétaire de Kodasevich. C'était un peu l'amour interdit parce que Kodasevich était marié à l'époque et sa femme était gravement malade. Donc c'était aussi un choix moral pour lui de la quitter. Mais c'était un amour qui balayait tous les obstacles. Et donc Nina disait dans son autobiographie qu'il devait leur salut l'un à l'autre. C'est grâce à ce départ qu'ils ont pu se sauver tous les deux.
Ils avaient chacun leur chambre, je crois.
Oui, ils avaient chacun leur chambre, mais...
Il y avait la sienne et il y avait la mienne. Enfin, il y a la sienne, il y a la mienne. Puis il y avait une pièce commune.
Oui, il y avait une pièce commune où ils se retrouvaient parce que souvent, ils n'avaient pas le même rythme de vie. Kodasevich, il avait une personnalité dépressive, anxieuse. Donc, il passait beaucoup de temps à veiller la nuit dans la pièce commune. Souvent, il réveillait Nina pour qu'elle prenne un thé avec lui. Il avait vraiment besoin de parler de ses difficultés, un peu de se plaindre, de raconter.
Comme à un moment donné, elle en a eu assez, elle a quitté la rue des Quatre Cheminées.
Oui, c'était une séparation très progressive, mais ils se sont séparés à l'amiable. Et elle dit dans son autobiographie qu'elle voulait éviter de le quitter pour quelqu'un d'autre. Donc ça, elle a réussi effectivement.
Combien de Russes vivaient à Billancourt dans ces années-là, à la fin des années 20?
À peu près 10 000 Russes qui ont été embauchés dans les usines Renault. Mais en fait, à peu près 19% de la population de Billancourt était russe. C'est à un moment donné presque chaque quatrième habitant de Billancourt.
Et comment les Russes se surnommaient Billancourt?
Donc c'était la ville de Billancoursk, parce que il y avait vraiment toute une infrastructure russe avec les épiceries, les salons de coiffure, les magasins, et donc il y avait le fameux hôtel Caprice qui était pratiquement réservé aux Russes. Donc c'était une ville à moitié russe, on va dire.
Il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans le 10 bis rue des 4 Cheminées. Je crois qu'on peut pousser la porte. Il faut imaginer que Nina Berberova, à la fin des années 20, début des années 30, elle poussait cette porte et elle remontait par cet escalier qui est là, au dernier étage. Et on peut dire que les chroniques de Billancourt, elles ont été écrites dans cet immeuble ici.
Il y a eu d'autres adresses également, mais ça c'est l'adresse la plus connue. Donc je pense que la plupart des chroniques étaient écrites ici. La rue s'appelle la rue des Quatre Cheminées. Et c'était les quatre cheminées des usines Renault dont Nina Berberova dit dans ses chroniques qu'ils soutiennent le ciel de Billancourt.
Et au fond de la rue des Quatre Cheminées, il y avait les usines Renault?
Au bout de la rue. C'était sur la place nationale où il y avait la sortie principale.
Nous fûmes nombreux à respirer, à soupirer et à étouffer ici. En automne, les feux bruissaient sur la place. L'été, la poussière tourbillonnait devant les grilles de l'usine Renault, faisant tousser les petits-enfants. Au printemps, les chômeurs se rendaient sur les berges, un journal posé sous la nuque, pieds nus, tous exclusivement jaunes et les yeux clos, restaient couchés des journées entières, tandis que le soleil accomplissait son cycle dans le ciel. Et tous les soirs, au crépuscule, alors que dans le lointain, les quatre cheminées qui soutenaient notre ciel de Billancourt devenaient mauves, fondant à l'horizon pour disparaître jusqu'au lendemain. Au-delà des cordes asséchait le linge, enjambant l'alignement de tous ses pieds identiques, une femme, un plat à barbe, un blaireau et un rasoir dans les mains, venait proposer chaque jour à ses hommes allongés de les raser pour 5 sous.
Michel Nikieu, bonjour, vous êtes spécialiste des lettres russes, vous êtes traducteur, vous avez traduit « Histoire de la baronne Bodberg » de Nina Berberova. Alors elle venait de quel milieu social, Nina Berberova? Elle avait un père arménien et une mère russe, elle était déjà d'une double culture en
Allemagne. Oui. Et elle reconnaît la richesse de cette double appartenance, une mère russe. Mais enfin, les relations avec sa mère étaient un peu difficiles. Elle considérait qu'elle était de mentalité victorienne, la vieille Russie, là, alors que son père était beaucoup plus moderne, un père haut fonctionnaire au ministère des Finances.
Quand elle est au lycée, c'est un peu une élève modèle, un peu prodige, elle écrit déjà des poésies, on lui présente des poètes, elle est ambitieuse, elle a envie d'appartenir
oui.
à ce monde.
Oui, les jeunes filles cultivées de l'époque écrivaient des poésies, mais enfin, elle a eu la chance de rencontrer des poètes comme Nicolas Goumiliov. Elle est accueillie dans ce cercle de poètes acméistes, Goumiliov, Khadasievich et d'autres. Elle fréquentait les sœurs, de certains poètes acméistes. Donc, elle est bien insérée dans ce milieu. Et c'est par ce milieu-là qu'elle fait la connaissance de celui qui va devenir son compagnon, Khadasievich, un poète plus âgé qu'elle et qui était, contrairement à Berberova, tournée vers le passé, enfin qui avait peur du présent, peur de l'avenir, un poète pessimiste quant à l'avenir, non seulement de le sien propre, mais celui de son pays et celui de l'humanisme, et qu'elle a fini par quitter pour se libérer un petit peu de cette sorte de gouffre dans lequel elle se sentait un peu aspirée.
Quelle était l'ambiance à Saint-Pétersbourg dans sa jeunesse, dans son enfance? C'est les années 10, juste avant la Révolution.
Les années 10, c'est-à-dire que tous ces milieux cultivés aspiraient à la fin du tsarisme. Et d'ailleurs, elle a des mots très durs envers Nicolas II.
Elle pressent la fin du tsarisme déjà.
Elle applaudit à l'écroulement du tsarisme avant de se rendre compte que le nouveau régime qui se met en place va être pire. Si elle choisit d'émigrer avec Radassevich, ils sentent tous les deux là qu'ils ne pourront survivre longtemps sous ce nouveau régime.
Il est dur à 16 ans de s'arracher de son univers familier, de briser des amitiés, de laisser ses livres préférés, de quitter sa ville natale belle et majestueuse, en dépit des premières dégradations. De ci, de là, on voyait des vitres brisées, des magasins barricadés de planches, des monuments renversés, des portes arrachées, de longues queues lugubres. Je partais pour un lieu où le courrier ne m'arriverait pas, bien que Moscou ne fût qu'à une nuit de train de Pétersbourg et où je ne connaissais personne. J'ai perdu tous mes amis lorsque nous sommes partis à Moscou où mon père devait suivre le gouvernement. Je me retrouvais complètement seule. Je n'ai jamais été aussi démunie que cet été-là, dans la poussière et la touffeur du boulevard Nikitsky, privée de tout ce qui avait fait ma vie jusqu'alors. Été 1918, il fait une chaleur lourde et nous avons faim. Les premiers restaurants communautaires font leur apparition avec leurs caches à d'orge et leurs pains noirs mal cuits parsemés de bouts de paille.
Deuxième révolution, la révolution d'octobre, éclate fin 1917, elle a 16 ans. Comment va se passer la vie de Nina Berberova entre 1917 et 1922, date de son départ pour l'Europe?
Après la révolution d'octobre,
Bertrand Leménien.
L'exil est devenu assez rapidement un impératif, une quasi-obligation, notamment pour Kodasevich, qui était déjà une relation très proche et qui lui n'avait aucun avenir, si je puis dire, comme tous les poètes, comme tous les écrivains en Russie. Les poètes ont beaucoup, beaucoup souffert, puisque ça s'est incarné notamment par deux grands poètes, qui ont été d'abord le poète Goumilev, qui était le premier mari de Anna Akhmatova. Et Goumilev, il se trouve que Berberova l'a connu, non seulement connu, mais même entretenu avec lui une brève mais assez intense ou intime relation, et Alexandre Bloch, qui a été le chef de file de l'époque symboliste et qui est un très grand poète russe. Et puis, dans ces années-là, les années 19, 20, 21, Goumilev, avec un très grand nombre d'autres poètes et d'autres personnalités, a été assassiné par les bolcheviks dans le cadre d'une affaire qu'on a appelée l'affaire Tagantsev. Et il se trouve également qu'Alexandre Bloch est mort d'épuisement, etc., compte tenu des circonstances de l'époque. Et pour Berberova, comme pour Kodasevich, ces deux événements terribles ont été des révélateurs du fait que l'exil devenait très rapidement la seule solution de survie pour eux.
Elle reste quelque temps à Berlin et ensuite elle part en Italie avec Gorki.
Pendant 3 ans, elle vit avec Kodasevich dans 42 endroits différents. Ils vont entamer une grande pérégrination à travers la France, l'Italie, la Tchécoslovaquie, enfin énormément de pays, ou l'Angleterre, l'Irlande, etc., où ils vont s'arrêter quelques semaines, quelques mois, etc., avant que les choses se stabilisent un petit peu et qu'ils puissent envisager une deuxième phase. Durant cette première phase, ils vont, au travers de leur pérégrination à Paris, à Prague, en Italie, rencontrer ou revoir de grandes personnalités russes. En Tchécoslovaquie, par exemple, Tsvetaïeva, la grande poète russe. Ils vont revoir ou voir en Italie Gorky. Ils vont faire sa connaissance et Gorky va devenir une relation très importante pour l'un comme pour l'autre pendant un certain temps. Et beaucoup d'autres personnalités ou poètes russes.
42 endroits différents. Et pourquoi Paris ? Est-ce que c'est un choix qui s'impose ou est-ce qu'ils sont à Paris et à un moment donné ils n'en repartent plus ? Qu'est-ce qui les appelle à Paris ?
Parce qu'à partir de 1924-1925, compte tenu de l'évolution en Allemagne, le centre de gravité de l'émigration russe se déplace de Berlin à Paris. Et c'est pour cela que Berberova et Kodasevich atteignent Paris en 1924, puis pour quelque temps, puis en 1925, d'une façon a priori quasiment définitive.
Je trouvais un appartement, ou plus exactement une chambre, avec une cuisine minuscule sur le boulevard Raspail, presque en diagonale par rapport à la rotonde. Nous y avons passé 4 mois. Kodasevich restait allongé des journées entières sur le lit, tandis que j'étais assise à la table de la cuisine à regarder par la fenêtre. Le soir, nous allions à la rotonde. Tout nous paraissait étranger. Nous étions sans argent. Quand quelqu'un venait nous rendre visite, je courais à la boulangerie au coin de la rue pour acheter 2 petites pâtisseries que je coupais en 2. Par délicatesse, les invités n'y touchaient pas.
Elle écrit d'abord de la poésie, ensuite elle va commencer à écrire ses récits des années 30 qui la feront connaître un demi-siècle plus tard. Donc à Paris dans les années 20 et 30, elle survit. Quel métier elle fait justement?
Elle va travailler essentiellement comme journaliste pour les journaux russes de Paris. À l'époque, c'était en russe qu'elle pouvait être publiée à Paris. Et ses premiers récits ont été publiés en 1935, un recueil de récits russes aux éditions qui existent toujours, les éditions Imka Press.
Elle envoie ses textes, je crois, à Gorky ou à Bounine. Enfin, elle a vraiment des maîtres qui vont lui dire « Oui, c'est bien, non, vraiment, là, je te félicite, continue à écrire, ma petite Ina. » Enfin, elle a aussi des mentors intellectuels et littéraires.
Oui, mais il y a toujours une petite musique berbérovienne, des petits détails. Là, elle excelle dans les petits détails qui sont parfois très méchants, mais enfin très précis, lucides, dans ses descriptions de personnages, les portraits ou la nature aussi. Elle excelle dans les descriptions de la nature et des personnages. Elle a des mentors littéraires qui sont d'une part Dostoïevski, d'autre part Tchekhov. Et puis elle apprécie aussi, bien qu'elle n'apprécie pas le personnage, elle apprécie beaucoup la prose d'Ivan Bounine. Derrière cela, il y a des inimitiés qui sont provoquées par des rivalités, des on-dit, des racontars, notamment au moment de l'occupation. Berberova est restée en France, à Paris, enfin dans la banlieue de Paris. Elle n'a pas voulu aller dans le midi de la France ou émigrer aux États-Unis comme d'autres écrivains.
Elle est restée en zone occupée, en fait.
Oui, et beaucoup l'ont soupçonné de sympathie pour les personnages forts qu'elle a toujours...
Elle dit qu'elle préfère les vainqueurs aux vaincus.
Oui, elle dit quelque part qu'elle a préféré toujours les vainqueurs aux vaincus, mais contrairement à d'autres écrivains russes restés sous l'occupation, elle n'a pas écrit, on n'a rien trouvé dans les journaux ou les revues de l'occupation. C'est plutôt qu'elle a été illusionnée au début par la puissance de Hitler, dont elle pensait qu'il arriverait à chasser Staline. Et Staline est restée pour elle la bête noire. Elle n'a pas eu cette tentation de revenir en Union soviétique comme Staline a appelé ceux qui avaient émigré après la guerre. Plusieurs Russes sont revenus comme ça en Union soviétique, croyant que l'Union soviétique était redevenue la Russie de leurs rêves. Elle n'a jamais partagé ses illusions.
Voici l'endroit où j'ai vécu, rue des Quatre Cheminées, à Bihancourt, détruit par les bombes. Où êtes-vous à présent, guerrier de Denikine, racaille de Wrangel, de noble extraction, prolétariat de confession orthodoxe venu surveiller les fours Martin de M. Renault? Les uns sont derrière les barbelés, réduits par les Allemands au pain et à l'eau, sous prétexte qu'ils sont russes. On ne sait jamais en effet quel tour il pourrait jouer, maintenant que l'armée allemande assiège Leningrad et Stalingrad. Les autres ont endossé l'uniforme allemand et se battent contre les soviets. D'autres encore se terrent, invisibles, vendant du kvass au marché noir ou lavant les planchers des casernes allemandes.
Quand on lit son autobiographie, on n'a pas l'impression qu'elle est hantée par la solitude comme un mal noir, comme quelque chose qui serait plombant et déprimant, mais qu'elle est plutôt exaltée par la solitude, qu'elle la recherche.
Oui, mais dans quelle mesure c'est une reconstruction
Elle parle quand même de ses échecs amoureux à un moment donné.
Oui, oui, parce que les petits romans, sans vouloir faire de la psychanalyse quand même, et cela reflète quelque chose de ressenti profondément intérieurement.
Donc elle est autant dans ses romans que dans son autobiographie.
Oui. Oui, oui, de même qu'elle est autant dans l'autobiographie que dans la biographie de la baronne Boudberg. Oui, il y a tout un champ autobiographique qui recouvre à la fois l'autobiographie proprement dite que l'œuvre de fiction.
Dans les années 50-60, elle voyage en Europe, elle est seule, elle est libre.
Elle a toujours voulu rester libre. C'est aussi une des constantes de la vie de Berberova, ce besoin de liberté dès l'enfance. Elle en parle au début de l'autobiographie, ce besoin de ne pas se soumettre aux conventions, de ne pas rester dans le nid familial, de ne pas recréer un nid familial, de toujours conserver sa liberté.
Elle a eu des passions amoureuses. Je crois qu'elle a été aussi amoureuse de femmes dans sa vie.
Oui, ça, la bisexualité de Berberova, c'est un sujet qu'on est guère. Mais enfin, il y a quelques petites allusions, oui. Notamment lorsqu'elle décrit Tsvetaeva qui se jette sur elle à Prague. Et puis ses amis d'enfance aussi, peut-être, oui. L'accompagnatrice, il y a une relation de haine et d'amour assez ambiguë.
Bertrand Pi, nous sommes à Arles, au siège historique de la maison d'édition Actes Sud avec vous. Sentimentalement, que vivent les personnages de Nina Berberova? Parlons d'amour, parlons de leurs relations. On connaît leur histoire, souvent tragique politiquement. Ils ont émigré, ils ont été chassés, ils ont connu la guerre. Et les relations sentimentales aussi sont tragiques chez Nina Berberova. Comment ça se passe pour ces personnages? Est-ce qu'on peut un peu les décrire? Qu'est-ce qui se passe dans ces romans?
Presque toujours une souffrance muette, presque toujours un amour qui ne peut pas être énoncé, qui ne peut pas être dit parce qu'il rencontre l'insouciance ou le mépris ou la vulgarité. Parfois un amour ambivalent, je pense au laquais et la putain, par exemple, avec le personnage féminin qui... on peut même pas dire qu'elle s'amourache, elle fixe son besoin de trouver un compagnon et de s'en sortir, je dirais, économiquement à Paris. Elle le fixe sur un serveur de restaurant, celui qu'on appellera le laquais dans le roman. C'est par ces petites chroniques, c'est donc vraiment par le format très court qu'elle est venue à la fiction et qu'elle s'est petit à petit assurée elle-même, rassurée dans l'exercice de la conduite d'un récit. Dans Astachef à Paris, une petite femme, une petite jeune femme tendre, un peu romantique et très grise en réalité, se laisse fasciné par Astachef, qui est un roublard, un cynique absolu, qui vend des polices d'assurance en assurant les gens contre la mort, en leur parlant de l'au-delà et des précautions qu'il faut prendre. Un garçon extrêmement pragmatique qui parvient à l'embarquer un soir dans son appartement. Le rideau se ferme ensuite sur ce qu'il advient, parce que Berberova n'était pas du genre à fouiller dans les alcôves, mais quand la petite géniale entre chez elle dans la cuisine, elle débranche le tuyau de gaz et elle se le met dans la bouche et elle se tue. L'accompagnatrice, quand Hubert Nissen le découvre et m'en parle et me le refile pour que je le lise dans l'après-midi même, tellement il était fébrile d'avoir mon propre ressenti, avait ceci d'absolument extraordinaire, c'est que le texte, le récit devenait en si peu de pages, une métaphore de la révolution russe, du conflit de classe, du fossé social entre les deux personnages, de l'ambiguïté d'une amitié qui était une amitié finalement pleine d'un désir inavoué, inexpressif. Donc il y avait tant de choses dans ce petit livre, plus le voyage à Paris, la jalousie de l'accompagnatrice à l'égard de l'histoire d'amour cachée de la cantatrice avec un premier amant qui n'était qu'en fait qu'un amant de pacotille qu'elle quitte volontiers, un mari charmant, assez libertaire, très tolérant. Voilà, il y a ce drame intime. Et chez Berberova, dans l'accompagnatrice en particulier, il y a une histoire dans une histoire dans une histoire. Et le tout dans un cadre historique qui est évidemment un cadre assez bouleversant parce que il dépasse très très loin la situation personnelle de Berberova. Il a évidemment touché et déstabilisé tout un continent littéraire, toute une génération d'écrivains.
Pétersbourg, année 1919. Les grands tas de neige, le silence, le froid et la faim, le ventre gonflé de gruau d'orge, les pieds qu'on n'a pas lavés depuis un mois, les fenêtres bouchées avec des chiffons, la suie liquide des poêles. J'entre dans l'immeuble, un immense immeuble sur la Fourstadtskaya. L'ascenseur suspendu entre les étages. Dedans, des immondices gelées. Une porte au deuxième étage. Je frappe, personne. Je sonne. À mon étonnement, le timbre retentit. Une femme de chambre, coiffe et souliers fins, ouvre la porte. Il fait chaud. Mon Dieu, il fait chaud. Non, ce n'est pas croyable. Un immense poêle en carreaux de faïence chauffe à tel point qu'on ne peut en approcher. Des tapis, des rideaux, des fleurs naturelles, des jacinthes bleues, et une femme vêtue on ne sait pourquoi d'une robe blanche ou d'une robe de chambre, je ne distingue pas. À moins que ce soit ce que l'on met sous la robe, vient vers moi en souriant. Me tend une main aux ongles longs et roses, et ses bas sont roses aussi. Des bas roses. Elle avait 10 ans de plus que moi, et bien entendu ne le cachait pas, parce qu'elle est belle, et moi pas.
Jacques Chancel avait invité Hubert pour parler des éditions Actes Sud. Et au cours de cette émission, Hubert s'est exprimé avec chaleur et avec enthousiasme sur les découvertes qu'il restait certainement à faire quelque part. C'est ce qui a déclenché, de la part d'une dame qui s'appelle Lydia Schwetzer, si je me souviens bien, la traductrice du russe, amie de Berberova, c'est ce qui a déclenché l'envoi spontané d'un, donc je pense qu'on était au début de l'année 84, quelque chose comme ça, il faudrait vérifier dans les carnets de Nissen qui ont été publiés ensuite. Ça a déclenché l'envoi d'un fascicule d'assez grand format qui ressemblait en quelque sorte à ces cahiers à dessin qu'on peut acheter en librairie sur du papier canson, enfin un papier avec un grammage assez fort pour faire des pastels et des choses comme ça. Et arrive là un texte qui avait été probablement imprimé, je suppose, à compte d'auteur, en toute petite minuscule quantité. Et c'était le texte de l'accompagnatrice, absolument tout traduit, et qui nous tombe comme ça du ciel, avec un petit mot de Lydia Schwetzer disant « Monsieur Nissen, je vous ai entendu à la radio dans l'émission de Jacques Chancel, et j'ai trouvé que le petit texte que je vous envoie correspondait parfaitement aux espérances que vous aviez formulées, et il n'a jamais été publié, diffusé. » Il le lit, il saute de bonheur, il me le passe immédiatement, je le lis, je trouve ça formidable, nous le passons à Françoise. Nous disons, bon, on va sans attendre le prochain comité qui doit avoir lieu le lundi suivant, prenons contact avec cette traductrice et essayons de voir quel est cet auteur mystérieux qui s'appelle Berberova et qui a en plus un nom assez formidable parce que c'est un nom qui reste en plus qui s'imprime dans la mémoire de manière extrêmement, extrêmement facile et qui dit à lui seul toute la Russie.
Alors tout d'abord, Nina Berberova, je ne vous imaginais pas comme ça, si jeune.
Oh, je ne suis pas jeune, je vais avoir en août, je vais avoir 88 ans.
Oui, mais la jeunesse, elle est dans le visage, dans le regard, dans le corps aussi.
Ce sont les gènes, ce n'est pas moi, ce sont mes gènes qui font ça probablement. J'ai une bonne santé.
Mais c'est les gènes, ce sont les gènes, mais c'est aussi une sorte d'ardeur intérieure.
Merci. Pour le complément.
C'est vrai, non?
Probablement, si vous le dites. L'énergie, ça ne manque pas.
Comment elle est venue, cette énergie, cette conscience du monde?
À 11 ans, je savais ce que je voulais faire dans la vie. J'ai tout essayé. J'ai jamais eu de peur. Peut-être seulement pendant les Allemands, l'occupation des Allemands de Paris. Mais autrement, je n'avais jamais la frousse. J'étais trop jeune pour qu'on m'arrête et qu'on m'envoie au goulag. J'ai évité ça, mais naturellement, l'occupation allemande m'a changé terriblement. C'était un temps que je n'ai même pas pensé, vous savez, ce qu'on a fait en vivant. Avec ces années, une plus terrible que l'autre.
Un rendez-vous a été pris par Hubert à Paris avec Nina Berberova, qui vivait aux États-Unis déjà, qui vivait à Princeton, mais qui, de temps en temps, venait à Paris, où elle avait évidemment longtemps vécu, et c'est à partir de là que tout s'est enclenché.
Donc qu'est-ce qui se passe après cette première rencontre? Il y a un contrat qui est signé tout de suite, les semaines qui suivent ou les mois qui suivent, comment ça se passe avant la sortie de l'accompagnatrice?
Elle a fait entrevoir une partie des œuvres qui étaient disponibles, pas la totalité. Nina Berberova était quelqu'un d'assez méticuleux, organisé. Elle n'avait pas le sentiment que toute son œuvre valait absolument d'être immédiatement portée au nu. Elle avait de la réserve, elle avait de la discrétion, elle avait des secrets. Je crois qu'elle aimait les secrets et avoir des secrets. Et donc, elle a probablement évoqué la possibilité, en effet, de publier plusieurs petits romans. Après, rester à déterminer une stratégie éditoriale, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait les traduire tous rapidement et puis les publier tous à intervalles très rapides et très réguliers, ou plutôt laisser à chaque texte le temps de s'imposer. Alors, c'est la décision que nous avons prise. Nous avons commencé par l'accompagnatrice parce que c'était le premier que nous avions reçu. Si nous avions eu tous les éléments en main et s'il avait fallu faire une édition plus chronologique, il me semble que c'est par les chroniques de Billancourt que Nina Berberova est arrivée peu à peu à la fiction. L'accompagnatrice a dû suivre assez rapidement, puis le Laquais, puis Astachev, et puis ensuite le Mal Noir, le Roseau Révolté, qui sont aussi deux textes magnifiques. Mais je dirais qu'elle nous a donné les textes peu à peu. Elle a pris un engagement immédiat de fidélité absolue. Un contrat n'a pas été fait sans doute absolument tout de suite pour l'ensemble des textes, puisque nous ignorions au fond que l'accompagnatrice n'était que la partie émergée de l'iceberg.
Et donc l'accompagnatrice est parue en 1985. Comment se passe la sortie, la promotion, la découverte, la rencontre entre ce texte et le lectorat, le public français ?
L'adhésion du lectorat à l'accompagnatrice a été immédiate. Il y a eu beaucoup de presse. La personnalité de Berberova a évidemment énormément séduit les journalistes et ça a été d'emblée une très grande réussite. C'est-à-dire que je pense qu'on a dû vendre en moins d'un an près de 100 000 exemplaires de l'accompagnatrice, ce qui évidemment pour une maison comme Actes Sud était considérable.
Vous écrivez ça en décembre 1940 à Paris. Je n'aime pas la vie facile, c'est sans doute la lecture de Nietzsche quand j'étais adolescente qui m'a donné ce goût et je l'ai gardé toute ma vie. J'aime avoir à résoudre des problèmes et à surmonter des obstacles. Bref, j'aime la destinée humaine dans ce qu'elle a de complexe et entre guillemets de sportif. Alors certes, vous avez connu des bonheurs, bien entendu, des joies, mais vous avez connu aussi l'exil, la misère, le froid, la faim. Alors vraiment, pour avoir des épreuves, on peut dire qu'au fond, la vie vous a gâté si vous vouliez des épreuves.
Oui, vous avez raison. La vie m'a gâtée, mais un peu tard.
Un peu tard. C'est vrai que vous avez vécu quand même très difficilement pendant très très longtemps.
Oui.
Mais il y a en vous cette chose extraordinaire, c'est que vous avez un appétit de vivre étonnant. Et à un certain moment, vous dites que les gens vous disent comme ça, « Ah, mais Nina, tu es un roc. » Et vous leur répondez, « Non, je ne suis pas un roc, je suis un fleuve. »
Oui.
Pourquoi ?
Parce que je bouge. Parce que je bouge. Un roc est là, il ne bouge pas. Mais moi, j'ai bougé non seulement géographiquement, mais aussi intérieurement.
Ouais.
Eva Chanet, nous sommes chez Actes Sud à Arles. Avec vous, vous étiez l'attachée de presse, je crois, de Nina Berberova dans les années 80. Comment avez-vous rencontré Nina Berberova ? Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous avez rencontré cet écrivain ?
Moi, je me souviens être allée alors la chercher à l'aéroport avec Hubert Nissen. Hubert la connaissait déjà, bien sûr. Moi, j'ai vu arriver cette magnifique vieille dame, une petite dame, très habillée, très, très apprêtée, comme ça, et à la fois avec une sorte de franc-parler immédiat, un français, bien sûr. Et il s'est noué entre nous tout de suite une belle complicité de femme. J'avais 25 ans, elle avait déjà un bel âge, mais elle était c'était une femme d'emblée très libre, très 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 femme de relations comme ça, de l'une à l'autre, qui était très attachée à la France, donc qui était très curieuse de ce que je pouvais à l'époque vivre dans les années du présent où elle revenait dans la grande ville qu'elle aimait, quoi.
Elle aimait Paris, elle reconnaissait le Paris où elle avait vécu, elle vous parlait de certains quartiers, des monuments, elle vous déclarait son amour pour Paris.
Beaucoup, beaucoup. Nina avait aimé le Paris des petits immeubles et des chambres de bonne. D'ailleurs, une anecdote, elle m'a amené chaque fois, j'ai toujours accepté, j'avais 25 ans, donc c'était à la fin des années 80, et elle m'a amené chaque fois un cadeau. Et ce cadeau était toujours une chemise de nuit en pilou. Parce que je pense vraiment qu'elle se souvenait des années où dans ses petites chambres et ses petits appartements, elle ne devait pas avoir très chaud. Et elle devait se dire, cette petite, quand même, elle est la seule à Paris, loin d'Actes Sud, il faudrait quand même qu'elle n'ait pas froid, quoi. Ça, c'était son Paris. C'était vraiment, on se baladait, elle regardait toujours en haut, elle regardait toujours les toits. Et à la fois, elle connaissait les grands lieux de Paris, bien sûr. Les grands lieux, j'entends les cafés littéraires, les endroits où il traînait à l'époque avec son mari et ses amis.
Elle avait quelle voix, Nina ? Elle parlait comment ?
Elle avait cet accent remarquable, hein. Elle avait un accent incroyable, elle riait beaucoup. Donc c'était toujours entremêlé, entrelacé de rire. Et puis elle avait, je me souviens, elle avait quelque chose d'assez... elle avait une énorme bague de rubis au majeur. C'est une bague très très belle, parce qu'étrange, imposant. Mais c'était une bague étrange, une bague en rubis très foncé. Et ce dont je me souviens très bien aussi, c'était la façon de s'asseoir. Elle avait une façon qui me laissait penser à des années de yoga. Elle était toujours en pantalon, Nina, et elle croisait ses jambes très très haut, comme quelqu'un d'extrêmement souple. Elle avait déjà 87 ans quand je l'ai rencontrée.
Et quel est le livre de Nina Berberova que vous préférez ou qui vous reste en mémoire?
Peut-être que celui qui m'avait touché le plus, je dirais peut-être dans les petits récits, Le Mal Noir et Le Rose Révolté, parce que c'était quand même des tout petits romans qui disaient beaucoup beaucoup de cette population-là de l'époque. Après, il y a eu évidemment l'autobiographie, mais c'est quand même dans un autre registre. Voilà, moi c'était ces deux-là qui me semblaient les plus... Je les aimais beaucoup, les deux, je les ai d'ailleurs toujours, hein. Je les ai tous, mais ceux-là me plaisaient beaucoup. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Alors, les boucles d'oreilles étaient restées 9 ans au Mont-de-Piété. La terre, elle, avait continué de tourner. Divers événements s'étaient succédés qui avaient ébloui ou ébranlé les hommes. Les boucles d'oreilles dormaient dans leur boîte numérotée. Pendant ces 9 ans, j'avais payé les intérêts. Quand on place son argent à la banque, on sait au moins qu'il n'y dort pas, qu'il disparaît dans la tourmente capitaliste pour ressurgir dès qu'on en a besoin. En revanche, les boucles d'oreilles, les vieux habits, les gramophones, l'argenterie dorment. Et pour peu qu'on cesse de payer, ils s'en vont à tout jamais. Elle campe tout dans la première page, toute une atmosphère, toute cette, l'atmosphère de ces petites gens qui vivaient à Paris, qui venaient de partout. Comme elle l'écrirait aujourd'hui de Paris, si elle avait raconté... le commun de nos petits immeubles et nos petits appartements, elle ferait pareil, elle trousserait ça en quelques pages. Il arrive dans la vie de chacun que soudain la porte claquée au nez s'entr'ouvre, la grille qu'on venait d'abaisser se relève. Le nom définitif n'est plus qu'un peut-être, le monde se transfigure, un sang neuf coule dans nos veines, c'est l'espoir. Nous avons obtenu un sursis. Le verdict d'un juge, d'un médecin, d'un consul est ajourné. Une voix nous annonce que tout n'est pas perdu. Tremblant, des larmes de gratitude aux yeux, nous passons dans la pièce suivante où l'on nous prie de patienter avant de nous jeter dans l'abîme. C'est ce qui m'arriva le soir où je me trouvais près d'Enard dans la file de voyageurs à destination de Stockholm. On attendait la navette pour le Bourget. Enard partait, je restais.
Pourquoi est-ce que Berberova n'a pas été édité en France ? Eh bien... Elle a tenté d'être éditée, elle a envoyé ses livres à des maisons d'édition, mais elle n'était pas du bon côté, elle n'était pas à l'époque politiquement correcte. L'édition française était imprégnée, comme toute la littérature, d'ailleurs, et comme la plupart des intellectuels français, étaient empêtrés dans la contradiction entre ce qu'on savait des suites de la révolution russe et du stalinisme, et ce qu'on n'avait pas trop envie de dire, parce que la grande lumière de l'Est constituait quand même un espoir, rayonnait, etc., etc. Donc, c'est son œuvre, sa description de l'exil, des raisons de l'exil, des raisons de l'émigration, ses prises de position en faveur des écrivains maltraités en URSS ou censurés ou déportés, eh bien, ça venait absolument à contre-courant d'une pensée dominante et d'une pensée dominante qui faisait la loi dans l'édition française. Donc, elle a essayé, puis elle a compris que ça ne passerait pas.
Vous avez dit tout à l'heure, au cours de notre entretien, qu'à partir du moment
Georges Léon,
où les Allemands sont rentrés en vainqueurs en France et que la France est devenue un pays occupé, vous avez complètement cessé d'écrire, et avec une telle détermination que c'en était arrivé au point même que, passant de votre machine à écrire, vous vous détourniez. C'est très important, cela, comme comportement. C'est cela, l'un des... un événement majeur aussi,
oui,
dans votre
siècle.
Oui, mais
vous vous trompez si vous pensez que c'était une décision. C'était une dépression terrible que je n'ai jamais subie, ni avant ni après. 4 ans dans ce patelin adorable, dans ce hameau d'une beauté. C'est vraiment un coin d'Île-de-France, mais c'était un temps désastreux. Pour la France, naturellement, mais pour moi aussi.
Elle raconte justement qu'après-guerre, la communauté russe, les Russes qu'elle a connus, qu'elle a aimés, les intellectuels russes, sont soit rentrés en URSS, soit sont morts. Kodasevitch est mort. Son compagnon peintre est toujours vivant, Bertrand Leménien.
Nicolas Makeyev est toujours vivant. Mais oui, beaucoup sont morts, beaucoup sont partis déjà, ici ou ailleurs, depuis longtemps. Et elle se retrouve seule. Elle se retrouve sans les magazines auxquels elle collaborait. Sa vie n'a plus grand sens sur le territoire français, puisque la communauté russe s'est assez considérablement disloquée, et donc elle est un peu perdue, un peu désorientée, déboussolée, et elle réfléchit assez rapidement à une solution assez radicale qui consiste à partir.
La nuit, les jardins bruissants du Trocadéro étaient sombres et silencieux. De rares réverbères formaient des cercles de lumière éclairant tantôt un bout de sentier, tantôt une large branche basse de platane. J'oubliais le temps d'un instant, qui j'étais et ce qui m'arrivait. Dans l'obscurité, on sentait déjà arriver l'automne et au-delà, la promesse émouvante du printemps que tous les Parisiens connaissent. Parfois, des gens passaient et j'essayais de marcher au même rythme qu'eux. Mais ces pas ne me menaient nulle part. Je vivais seule, sans dîner ni fête, ni jour ouvrable, ni dimanche, et presque plus de livres. Les autres étaient libérés, ils étaient revenus et revivaient. Pour moi, il n'y avait pas de retour.
Elle part en Amérique, notamment parce que certains de ses amis russes de Paris sont là-bas, à commencer par Kerensky, Maria Tsetina, enfin un certain nombre de gens, et l'appellent, lui disent, viens, rejoins-nous, tu vas voir, etc. Bon. Et donc, un beau matin, elle décide de tout laisser et de partir, sans rien connaître des États-Unis, sans rien connaître de leur langue, et sans absolument pas sans savoir ce qu'elle va pouvoir faire là-bas, quelle vie elle va pouvoir s'inventer, etc.
Elle part en 1950, donc elle a 49 ans, et elle quitte son compagnon, où ils partent ensemble.
Elle part seule avec 2 valises, comme elle le raconte, et avec un avenir à construire.
Elle raconte, je crois, qu'elle pleure en quittant la France, elle pleure sans discontinuer depuis Paris, peut-être jusqu'au Havre où elle embarque.
C'est vrai, mais c'est une femme qui vit beaucoup plus vers l'avenir que le passé, et donc très rapidement, elle tire un trait là-dessus, et en arrivant à New York, elle est déjà sur tout ce qui va se passer pour elle.
Hello,
this is Merle.
Ah, hi, Julian, this is Julian. Ron.
Ah, this is Ron, hi. I'm calling you maybe a little bit early, 10 minutes ahead. You are Merle Barker, you live in Seattle?
Yes, I do.
Je crois que vous avez rencontré Nina Berberova il y a longtemps,
en 1960. Elle avait 59 ans et vous seulement 24.
That's right.
Vous vous rappelez de la première fois où vous l'avez vue?
Yes, indeed. I met her in.
Bien sûr. Je l'ai rencontrée à l'université. Elle enseignait, c'était ses tout débuts. Nous n'étions que trois étudiants et Nina et moi avons commencé à nous fréquenter en dehors. Nous sommes devenus très très proches.
Elle ressemblait à quoi à cette époque? Elle avait 59 ans, elle était arrivée aux États-Unis 10 ans plus tôt. Quel genre de femme était-ce?
Elle était absolument incroyable. Elle était spectaculaire, un peu comme une star de cinéma.
Quand vous l'avez rencontrée, elle était professeure, vous étiez étudiant. Il y a eu une amitié entre vous et c'est devenu de l'amour. Et quelle sorte d'amour était-ce?
Well, it was really a deep love because it took some time, I mean, until we
C'était un amour profond. Cela a pris du temps avant que l'on réalise que nous étions si importants l'un pour l'autre. C'était quelque chose que je chérissais. Et elle m'a dit combien elle m'aimait. Et j'ai senti que c'était vrai. Et cela m'a accompagné toute ma vie.
Et vous êtes devenu son compagnon d'une certaine façon?
Yes, I think so. Ouais. I mean, it was an interesting situation. I mean, I certainly wasn't like a son to her or a lover to her, but somehow we just went together into one.
Oui, je pense. C'était une drôle de situation. Je n'étais pas son fils, ni son amant. Mais en fait, nous nous aimions. C'est un peu étrange et fou.
C'était platonique.
C'était platonique. J'entends Ron parce que Ron est votre mari aujourd'hui, n'est-ce pas?
Oui, donc je parle de ça en connaissance de cause.
Vous voulez lire un extrait de votre texte?
But how she did love America. It is true that she could be critical and impatient with this vast and sometimes crude country. And then she would refer.
Mais qu'est-ce qu'elle aimait l'Amérique? C'est vrai qu'elle pouvait être critique et impatiente avec ce grand et parfois grossier pays. Elle se disait alors européenne. Mais une fois qu'elle eut de quoi voyager en Europe, elle fut très critique sur ce qu'elle vit là-bas. Elle eut envie de retourner à la maison. Elle écrit que l'un des jours les plus importants de sa vie a été l'obtention de sa nationalité américaine. Murick, que serions-nous tous devenus si les États-Unis n'existaient pas? Que serait le monde sans Christophe Colomb? Je tremble rien que de penser à une telle calamité.
Comment s'est passé le retour de Nina Berberova dans ce qui était alors l'URSS, qui était en train de basculer avec la fin du communisme, en 89, je crois?
Elle était, si j'en crois les souvenirs qu'en a consigné Hubert Nissen lui-même dans ses journaux, dans ses carnets, l'éditeur et son double, je crois que c'est dans le volume 2, où il raconte un peu ce voyage en Russie, Berberova était émue, troublée, épuisée et pourtant infatigable, c'est-à-dire acceptant, poursuivie par quantité de gens qui voulaient l'interviewer, rassemblant pour des lectures et des interviews des salles de 2000 personnes, émerveillée par le changement dans le sens d'une libération, d'une liberté grandissante, effrayée par le délabrement tout de même du pays, des structures, inquiète du manque de solidité de l'économie et extrêmement... extrêmement passionné par ce voyage, mais accompagné toujours par le sentiment que c'était la dernière fois qu'elle voyait son pays natal, la dernière fois qu'elle voyait Saint-Pétersbourg, sa ville natale, et que ce voyage de retrouvailles était en réalité un voyage d'adieu définitif. Donc elle rebouclait, si vous voulez, la boucle entreprise dans les années 20, car... quand on lit « C'est moi qui souligne » ou des interviews de Berberova, on s'aperçoit que quand elle a quitté la Russie au début des années 20 avec son ami le poète Kodasevitch, elle pensait que 2-3 ans plus tard, elle pourrait y revenir et en réalité, elle n'avait pas pu le faire.
Et Nina avait pris toute disposition de son vivant. Elle s'était fait incinérer de telle sorte que quand je suis arrivé, elle était déjà incinérée sans cérémonie, etc.
Hubert Nissen.
Et nous avons eu cet ami américain, Merle Barker, qui est professeur de russe à l'université de Philadelphie, et moi, nous avons eu un petit conciliabule et nous avons pris la décision suivante. Nous avons pris les cendres de Nina et nous sommes d'abord allés dans le jardin de la maison qu'elle avait à Princeton, là où je l'ai connue au début, et où elle avait un jour planté un arbre, parce qu'il lui arrivait de faire du jardinage. Elle avait planté un arbre et cet arbre avait acquis une belle taille. Alors on a répandu une partie de ses cendres au pied de cet arbre. Ensuite, nous sommes rentrés à Philadelphie et Nina habitait au 10e étage d'une tour construite par M. Pei, l'architecte de la pyramide, et d'où elle avait une vue superbe sur le Delaware. Et souvent, elle attirait notre attention sur les jeux de lumière à un certain endroit du fleuve. Alors, nous sommes allés à cet endroit-là du fleuve et nous avons réparti une autre portion de ses cendres à cet endroit. Il y a une troisième partie que cet ami américain emmenait à l'université de Yale où sont toutes ses archives et dans le jardin, il a répandu les cendres. Et moi, je suis revenu en avion avec le reste des cendres et de façon tout à fait discrète, sans aviser personne, le dimanche matin, je suis allé au café de la mairie et devant le café de la mairie, il y a un arbre qui est juste devant les sièges où nous nous étions assis quand nous nous sommes rencontrés et j'ai versé là le reste des cendres de telle sorte que ceux qui passent à Paris, place Saint-Sulpice et qui voient l'arbre devant le café de la mairie doivent savoir qu'il y a un peu de la sève de Nina qui est passée. Moi, je n'ose pas parler de bonheur, je peux me parler de malheur parce qu'elle a affronté le malheur. Je crois qu'elle a connu des moments d'extrême plénitude. Je crois qu'elle a eu le bonheur de l'intelligence, le bonheur de la création. J'ai tombé sur une lettre qu'elle m'a écrite en 88, que je connais à peu près de mémoire. Nous nous voyions encore à ce moment-là, il y avait 3 ans qu'on se connaissait. On était très longs à se tutoyer, à devenir vraiment très très proches. Et elle m'écrivait... Je ne pouvais absolument pas m'imaginer il y a 3 ans quand j'étais à la place Saint-Sulpice qu'il m'arriverait ce qui m'est arrivé grâce à vous. Et vous avez dit « Lazare, lève-toi ». Je me suis levé, je suis sorti de la caverne et me voilà.
La deuxième guerre ne m'a pas détruit. Elle m'a terriblement... Elle voulait me détruire. Elle faisait tout pour me détruire. Et j'ai trouvé de l'énergie pour aller en 50 en Amérique et commencer une nouvelle vie. Je pensais maintenant ou jamais. Et j'ai bien fait. Je ne pouvais pas joindre debout et devenir une clocharde. C'était pas mon genre du tout. Mais elle ne m'a pas détruit. La vie ne m'a pas détruit, comme vous voyez. D'ailleurs, je n'ai pas à vous le dire. Elle m'a... poignardée de tous les côtés, mais elle ne m'a pas détruit. C'était une bataille du moment qu'on a traversé la frontière russo-allemande et venu en 22 jusqu'à la fin.
Quand vous pensez à elle, si vous deviez la décrire aux auditeurs, quelle femme vous voyez devant vous ?
Elle est là devant nous sur un coffret qui réunit quelques-uns de ses meilleurs petits romans, ou la plupart. Elle est là, souriante, élégante. Elle porte un chemisier ou une veste de tailleur blanche avec des boutons nacrés et un très joli foulard. Elle a la main d'une vieille dame, la main fatiguée, la main tavelée, les veines très apparentes, un immense sourire et un regard à la fois amical, profond, de quelqu'un qui a beaucoup vécu, une coiffure élégante. C'est telle que nous l'avons rencontrée. C'est une très très jolie dame.
Et je n'ai jamais cru pouvoir refaire le monde. C'est à moi de m'adapter à lui, non l'inverse. Tous les 25 ans, depuis ma naissance, j'ai dû faire peau neuve. À chaque fois, ce fut une expérience bouleversante.
C'était « Je suis un fleuve », Nina Berberova. Un documentaire de Julien Thèves, réalisé par Laurent Polleret. Avec Ida Juncker, auteur du « Monde de Nina Berberova », paru aux éditions L'Harmattan. Michel Niqueux, auteur et traducteur. Bertrand Leménien, auteur. Bertrand Pi, éditeur. Eva Chanet, éditrice. Merle Barker, universitaire. Merci à Michel Parfenoff
Extrait de l'autobiographie de Nina Berberova, C'est moi qui souligne, lu par Ida Juncker et Katarzyna Krodki. Traduction Marie Placé, Olivier Martineau. Prise de son Olivia Branger, mixage Manuel Couturier. Archive INA, Inès Barja. Coordination Christine Bernard, Pascaline Bonnet.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de franceculture.fr. Une page préparée, enrichie et élaborée avec amour par Pascaline Bonnet. Dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.